Bonjour à tous et à toutes. C'est une joie de pouvoir être parmi vous ce matin, de pouvoir louer et adorer le Seigneur. Ça fait toujours du bien lorsqu'on se retrouve entre frères et sœurs en Christ, quand bien même on ne se connaît pas personnellement, de pouvoir savoir qu'il y a ce lien qui nous unit, la foi. Et cela fait toujours chaud au cœur. Alors je vous transmets les salutations de l'église protestante baptiste de Versailles-le-Chesnay, où je suis pasteur revitaliseur, et que vous puissiez recevoir aussi cet encouragement des frères et sœurs de notre communauté. Alors, comme vous pouvez le voir par la première diapositive, le message pour ce matin, pour la thématique que je vais aborder au travers de ce message, c'est celle du célibat et du mariage, mais d'un point de vue biblique, puisque nous sommes bien sûr en Église. Alors moi-même, je suis célibataire. De par ma famille, j'ai eu le privilège de pouvoir être témoin de mariages saints et bénis. Cela fait 41 ans que mes parents sont mariés et continuent de poursuivre un mariage rempli d'amour, rempli de cette présence puissante de Jésus-Christ au cœur de leur mariage. Mes grands-parents maternels allaient fêter leurs 50 ans de mariage lorsque mon grand-père est décédé d'un cancer des poumons, il y a 20 ans de cela maintenant. Et mes grands-parents paternels, eux, ont fêté 44 ans de mariage avant que ma grand-mère ne décède d'un cancer du côlon au début des années 90. Et j'ai pu voir, au travers de chacun de ces mariages de mes grands-parents, ce que c'était que de pouvoir aussi voir ce mariage véridique qui dure, qui est sur le long terme en Jésus-Christ et que c'est possible. Surtout pour ceux qui sont plus jeunes, etc., où parfois les circonstances de la vie font que parfois on perd espoir. Et pourtant, il y a cette vérité, que c'est possible, que ça arrive, que c'est présent. Et j'ai pu voir cet amour qui émanait et qui continue d'émaner, en tout cas aussi de par mes parents, de cette force qui rappelle l'amour véritable et sincère. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Mais j'ai pu voir justement cet amour qui émanait de leur couple et qui peut durer jusqu'à son dernier souffle. Mais j'ai aussi vu avec mon frère la fatalité d'un mariage brisé. Suite à la trahison de mon ex-belle-sœur, mon frère a demandé le divorce après seulement 2 ans de mariage. Il a alors mis petit à petit de la distance avec l'Église et il est maintenant en couple avec une femme de tradition catholique non pratiquante et ils ont 2 enfants. Mon frère sait que mon amour pour lui reste inchangé, quand bien même il sait que pour tout autant je ne suis pas en accord avec son choix de vie. J'ai pu rencontrer des personnes dont le mariage est particulièrement sain. J'ai pu rencontrer des personnes dont le mariage est toxique, qui ont vécu des maltraitances, d'autres l'isolement, d'autres encore l'addiction. J'ai rencontré aussi des personnes qui sont épanouies, heureuses dans leur célibat. Puis j'ai rencontré d'autres pour lesquelles c'est particulièrement difficile à vivre à cause des pressions de la société, parfois aussi à cause des pressions de la famille. Mais une chose demeure la même pour tout un chacun. C'est l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Et ce qui ressort des textes bibliques, c'est donc extrêmement important pour chacun d'entre nous, pour notre vie spirituelle et personnelle, et ça a pour but d'encourager chacun, chacune, ici présent, célibataire ou marié, pour avoir pour fondement de sa vie sa relation à Dieu. D'où émane de cette relation à Dieu le véritable bonheur et le sens de sa vie. Il est écrit dans Ecclésiaste, au chapitre 8, le verset 12, « Je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. » Là encore, c'est un verset qu'on ne lit pas beaucoup non plus. On parlait des versets qu'on ne lit pas beaucoup de nos jours et qui est pourtant si fondamental. Et en Matthieu 5, dans son sermon sur la montagne, Jésus qualifie d'heureux celles et ceux qui le suivent. Donc là, on a bonheur, heureux, celles et ceux qui suivent le Seigneur. Alors, c'est vrai qu'en tant que chrétien, il faut dire que recevoir la grâce, le cadeau du salut qui vient en Jésus-Christ, ne peut apporter que de la réjouissance. Ainsi, que l'on soit célibataire ou que l'on soit marié, le but demeure le même, de vivre sa vie à la lumière de l'éternité. Et cela donne un tout autre regard, une toute autre perspective sur nos réalités ici-bas. Honorer Dieu dans tout ce que l'on fait. Et par qui on est, devient notre priorité. Que l'on soit célibataire ou que l'on soit marié, on est appelé à construire notre vie sur le roc qu'est Jésus, sur le fondement de ses enseignements. Et par ce passage, il nous a rappelé qu'ainsi, quand les tempêtes de la vie surviennent, ce n'est pas chercher à être sauvé par son époux ou son épouse pour ceux qui sont mariés, ou chercher à être sauvé par nos propres forces pour ceux qui sont célibataires, mais c'est chercher son secours dans la toute-puissance de Dieu. C'est l'appel à faire de sa foi et de son espérance en Dieu l'ancre solide et sûre de son âme, qui permet de faire face en tout temps aux diverses saisons et intempéries de la vie. Et que l'on soit célibataire ou que l'on soit marié, c'est tout autant vivre au quotidien un combat spirituel. J'en parlais avec les jeunes hier soir. Cette notion du combat spirituel où chacun est amené à vivre et à porter l'armure de Dieu dont l'apôtre Paul parle aussi en Éphésiens 6, versets 10 à 20, à porter entre autres le bouclier de la foi qui permet d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin. C'est donc fondamental dans un premier temps de rappeler l'importance, que l'on soit célibataire ou marié, que Christ soit au centre de sa vie. Parce que le but demeure le même, vivre sa vie à la lumière de l'éternité. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit spécifiquement sur le célibat? Qu'est-ce que la Bible nous dit spécifiquement sur le mariage? Je vous invite à regarder dans un premier temps ce que la Bible nous dit sur le célibat, et puis on regardera dans un deuxième temps ce qu'elle nous dit sur le mariage. Alors, bien sûr, je ne pourrai pas tout aborder avec vous ce matin. C'est pour ça qu'il y a aussi un temps de questions, si vous voulez rester plus longuement tout à l'heure pour poser ce que... Et à votre esprit, vous voudriez réponse, et j'essaierai de répondre au mieux avec la sagesse que le Seigneur pourra me donner. Mais on peut se demander pourquoi est-ce qu'on parle si peu de cette notion de célibat. Alors peut-être que c'est aussi, comme j'ai pu le remarquer en préparant pour le message, tout particulier sur le célibat, cette première partie de ce message, que la Bible mentionne assez peu le célibat. Il faut dire que lorsqu'on regarde à l'Ancien Testament, le mode de vie existant était lié à la tradition juive, qui exhortait les gens à se marier, à avoir des enfants, à avoir des petits-enfants, à avoir des arrière-petits-enfants, de manière aussi à se donner une descendance. Et par là même, répondre au commandement qui se trouve en Genèse, au chapitre 1, les versets 27 et 28, où il est dit « Dieu créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Et il n'était pas perçu comme bon de rester seul, surtout pour une femme, pour qui survivre pourrait alors devenir particulièrement difficile, comme on le voit par exemple avec l'histoire de Ruth. Dans le Nouveau Testament, il est possible de voir aussi que la tradition juive était toujours prédominante. Mais on voit quelques exemples qui s'en détachent. Ce sont des personnes qui, au travers de leur célibat, dédient leur vie au service de Dieu et à la transmission de sa parole. On en a l'exemple en Actes, au chapitre 21, versets 8 et 9, Actes 21, où il y a l'exemple des quatre filles de l'évangéliste Philippe, qui sont décrites comme quatre filles vierges qui prophétisaient. Elles étaient toutes quatre célibataires, ce qui était encore moins commun en ce temps-là. Et toutes quatre exerçaient un ministère pour Dieu, avec le don qu'elles avaient reçu de Dieu. Il y a aussi l'exemple d'un autre type de célibat qui nous est donné, qui se trouve dans Luc au chapitre 2, Luc chapitre 2, les versets 36 à 38, où on a l'exemple de la prophétesse Anne. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage et elle était restée veuve. Et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu de nuit et de jour, elle jeûnait et priait dans le temple, nous est-il dit dans ce passage de Luc chapitre 2. Elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. On voit donc que suite au décès de son mari, elle ne s'était pas remariée comme c'était pourtant la coutume de l'époque, mais elle avait plutôt choisi le célibat. Ce qui était étonnant, comme je l'ai dit, pour l'époque, encore plus pour une femme veuve, mais elle avait choisi le célibat pour dédier sa vie au Seigneur au travers de son ministère de prophétesse. Alors pour ce qui concerne Jésus, on ne trouve dans ses enseignements qu'une seule parole au sujet du célibat. Si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez les ouvrir pour regarder à ce passage qui se trouve dans Matthieu au chapitre 19, au verset 12. Matthieu 19, verset 12, où il nous est dit « Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux que celui qui peut comprendre comprenne. » Alors la première partie de ce verset peut surprendre. Certains commentateurs pensent que Jésus a dit cela à ses disciples pour justifier son propre célibat, qui était une prise de distance par rapport à la tradition juive. Et lorsqu'il mentionne par la suite, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, Jésus fait référence à ceux qui renoncent volontairement au mariage et font le choix du célibat pour mieux servir Dieu. Comme c'était le cas pour la prophétesse Anne, et c'était le cas aussi pour les quatre filles de l'évangéliste Philippe, et qui elle-même était prophétesse. Mais dans ce passage, qui suit directement les paroles de Jésus sur le mariage, on a le sous-entendu que dans le mariage, comme dans le célibat, il y a un choix. Il y a un choix et donc un renoncement. Il faut renoncer à certaines relations, ou certains modes de relations, avec le risque inhérent à tout choix humain, celui de la fidélité ou celui de l'infidélité. On a cette notion de l'importance de garder son regard fixé sur Jésus-Christ, de vivre fidèlement sa foi en Christ en toutes circonstances, en restant attaché à sa volonté, en vivant sa parole en acte. Et c'est cette même conclusion que partage l'apôtre Paul lorsqu'il développe plus longuement la question du célibat en parallèle avec la question du mariage dans le passage qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Alors je ne vais pas lire tout le passage, ce que je vais lire est déjà assez long, donc je vais lire les versets qui sont mentionnés sur la diapo, mais où il nous est dit dans 1 Corinthiens au chapitre 7, les versets 1 et 2. « Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Au verset 7, « Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. » Et je passerai au verset 17. « Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. » Au verset 20, « Que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. » Verset 25, « Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. En homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. » Et à partir du verset 32 jusqu'à la suite, « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il le veut, il ne pèche pas, qu'il se marie. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Long passage. Mais avant toute chose, pour comprendre les paroles de l'apôtre Paul qu'il adresse aux Corinthiens, c'est important de prendre en compte le contexte de la ville de Corinthe. Elle-même et du mode de vie de ses habitants. Corinthe, pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, était un des plus grands ports de Grèce. C'était un lieu de passage entre l'Asie et l'Europe. Et c'était une ville qui était multiculturelle, c'était un brassage de cultures, de modes, de religions, de cultes divers et variés. Et ils s'y côtoyaient, riches, pauvres, esclaves, hommes libres. Il y avait aussi des marins, des marchands en tout genre. Et il y avait l'idolâtrie, la débauche, l'immoralité qui régnait dans cette ville. Et Corinthe avait la réputation d'être une ville de plaisir et une ville de corruption, tellement que le verbe corinthianiser voulait dire vivre dans la débauche. La pensée dominante à l'époque dans cette ville particulière, c'était tout m'est permis. Tout m'est permis, je peux faire tout ce que je veux avec mon corps. C'est bien pour cela que dans le chapitre qui précède, l'apôtre Paul va rappeler tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Pour l'apôtre Paul, le corps est avant tout pour le Seigneur. Ne le savez-vous pas, nous dit-il, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On peut donc comprendre comment dans le contexte de cette pensée du tout m'est permis dans cet environnement d'immoralité sexuelle et de débauche, les nouveaux convertis de l'église de Corinthe se retrouvent plus que nulle part ailleurs face à la question de comment vivre fidèlement sa foi de manière intègre, juste, et sincère dans un monde païen. Et lorsqu'on s'arrête pour y penser, c'est un contexte qui est malheureusement tout aussi présent aujourd'hui encore. Par certains aspects, le mode de vie du monde n'a pas tellement changé, malheureusement. L'immoralité règne, il y a beaucoup de tentations. Certains considèrent encore aujourd'hui que l'infidélité est normale au sein du mariage. Ceux qui n'ont pas de relation sexuelle avant le mariage font l'objet de préjugés négatifs. Et il faut bien avouer qu'en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette même question. Comment vivre fidèlement sa foi de manière intègre, juste et sincère dans un monde païen? Comment vivre une foi éthique et juste qui plaise à Dieu et qui lui rende honneur et gloire? Certains chrétiens de Corinthe, face aux mœurs de la ville, en étaient venus à se demander s'il n'était pas préférable de rester célibataire. Et d'autres chrétiens en étaient même venus à penser qu'il était plus juste aux yeux de Dieu de s'abstenir également de relations sexuelles au sein même du mariage. Et de par ces questions et la réponse de l'apôtre Paul, on peut voir qu'il est difficile de dissocier la question du célibat et la question du mariage, car l'un et l'autre sont mis en parallèle. Mais on voit néanmoins l'apôtre Paul partager ici sa préférence. Son souhait, c'était dans 1 Corinthiens 7. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, il nous est dit, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Paul est très conscient que tous ne peuvent pas être comme lui, qui serait d'ailleurs néfaste de chercher à contraindre tous les chrétiens à suivre son exemple. C'est pour cela que le pasteur et commentateur Robert Somerville parle en référence à ce verset du don reçu qui est l'aptitude au célibat, le don de continence qui rend capable de vivre dans l'état de célibat sans lutte et sans souillure intérieure. Mais il faut tout de même être conscient du fait que tous n'ont pas reçu ce don. Robert Somerville spécifie néanmoins que Paul ne dit pas expressément que ceux qui se marient doivent avoir reçu de Dieu un autre don, c'est-à-dire l'aptitude au mariage. Il dit plutôt que ceux qui n'ont pas reçu le don de continence, ceux qui sont incapables de se dominer, ne doivent pas s'engager dans la voie du célibat. C'est ce qu'il dit. Le meilleur chemin pour eux, c'est celui du mariage. Pour l'apôtre Paul, on voit bien que le choix entre le célibat et le mariage, ce qui importe plus que tout, au final, c'est quand même de demeurer en Dieu. C'est bien pour cela qu'il exhorte au verset 17 que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises et au verset 19 de 1 Corinthiens 7. Ce qui compte, c'est le respect de mes commandements. Ce qui compte, que l'on soit célibataire, marié, c'est le respect des commandements de Dieu. Que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. En toute situation, l'important, c'est de garder les yeux fixés sur Christ, de rester attaché au Seigneur, de marcher en sa présence. Et ce qui est décisif, au final, et ça c'est particulièrement important à retenir, ce n'est pas notre position devant les êtres humains, notre place dans l'échelle sociale. Ce n'est pas notre rôle dans la société, ce n'est pas de se marier ou de ne pas se marier. Mais c'est notre relation à Dieu, c'est notre position devant Dieu. C'est ça le plus important. Il y a tellement de pression dans notre société pour atteindre une certaine carrière, pour atteindre un certain niveau, pour dire il faut absolument que tu te maries, il faut absolument ceci ou cela. Et on se critique les uns les autres. Alors que le plus important, le plus fondamental, c'est ce que je posais comme question aux jeunes hier soir quand j'ai commencé mon intervention, c'était où en es-tu dans ta relation avec Jésus-Christ ? C'est ça le plus important. Parce que ce qui va te sauver et te permettre de vivre la nouvelle Jérusalem, c'est pas d'être marié ou de pas être marié, d'être célibataire, etc. C'est si tu as dit oui, je veux recevoir Jésus-Christ dans ma vie, je veux recevoir ce cadeau du salut, je veux en être transformé. C'est ça le plus important, le plus fondamental. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre relation à Jésus-Christ ? Et je posais aussi cette question à certains des jeunes en me disant, mais parfois on est tellement préoccupé par la circonstance, soit du célibat, soit la difficulté du mariage, ou le bonheur même du mariage, qu'on en oublie en fait notre relation à Dieu. Et parfois, on a ce besoin de se retrouver devant le Seigneur, de dire, mais oui, tu es présent, tu existes, tu es le Tout-Puissant. Et j'ai besoin d'entretenir avant tout cette relation-là. Quelle est notre position devant Dieu ? Et on trouve ici ce rappel qui se résume tout autant au travers du passage de Colossiens au chapitre 3, verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Cela ne veut pas dire que la pleine satisfaction se trouve plus fortement dans le célibat qu'au sein du mariage ou inversement, c'est réalisé que la pleine satisfaction se trouve en Christ. Que l'on soit célibataire ou marié, si l'individu ne recherche pas à faire toute chose de tout son cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, il y aura un vide qui demeurera dans sa vie. Il va y avoir une insatisfaction qui va demeurer ancrée en soi parce que sa priorité n'est plus Christ, mais c'est son soi. Tout ce que l'on fait n'est alors pas fait par devoir, mais avec le cœur et pour le Seigneur. Mettre Dieu au centre de sa vie change la perspective et le regard que nous avons sur notre vie personnelle, mais aussi sur les relations que nous avons dans notre entourage, sur le monde, aussi notre relation à Dieu. Et il y a alors en nous ce désir, cette volonté de constante de vouloir plaire à Dieu. C'est pas vouloir plaire à un homme, vouloir plaire à une femme, c'est dire mais comment est-ce que je plais à Dieu avant tout ? Et de permettre que la lumière de Dieu nous remplisse et à ce moment-là puisse resplendir à travers nous en ce monde. Alors c'est vrai que pour l'apôtre Paul, dans le passage qu'on a lu, il nous dit que de son opinion, il est plus aisé de répondre à ce désir de plaire à Dieu et de faire sa volonté en étant célibataire. Pour lui, les réalités humaines d'une personne mariée ayant des enfants peuvent plus facilement prendre le dessus et accaparer l'attention. Ce n'est pas que les préoccupations des chrétiens mariés soient mauvaises, mais c'est cette notion qu'ils sont partagés, tiraillés entre leurs devoirs, entre leurs conjoints et leur famille et le service de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous partage. En revanche, le célibat, c'est la possibilité de pouvoir vaquer sans le moindre partage à la tâche que le Seigneur assigne aux chrétiens. Mais bien plus que le célibat représente pour l'apôtre le statut idéal pour servir Dieu corps et âme, il spécifie que si certains en viennent à renoncer au mariage, et ça c'est important, c'est nécessaire que ce soit une décision prise d'un cœur libre et ferme et non sous la contrainte. Ça c'est important. Donc pour l'apôtre Paul, il est important que chacun vive de manière à rendre gloire et honneur à Dieu, que ce soit au travers du célibat ou que ce soit au travers du mariage. C'est vrai que de nos jours, le célibat prend de multiples formes, ne se réfère plus seulement à ceux qui n'ont jamais eu de relations sexuelles. Le célibat correspond aussi au statut de certains qui ont fait le choix de sortir d'une relation dans laquelle ils étaient, une relation toxique par exemple, ou parce qu'ils ont réalisé que ce n'était pas la volonté de Dieu pour eux. D'autres se sont retrouvés célibataires sans l'avoir nécessairement choisi, suite à une séparation, un douloureux divorce ou au décès de leur conjoint. Le célibat peut alors constituer une souffrance pas toujours facile à vivre. Mais dans un cas comme dans l'autre, le célibat pour le chrétien peut devenir néanmoins un temps où l'homme ou la femme en question peut se remettre en phase avec Dieu et puis aussi avec soi-même. Se retrouver soi-même, ça peut être aussi l'occasion de pardonner. Ça peut être l'occasion de prendre le temps de guérir. J'en parlais avec les jeunes hier soir. Cette importance de prendre le temps de guérir en son corps, mais aussi en son âme. En s'abstenant de toute relation sexuelle pour se donner tout à Dieu et le servir. Cela peut être pour le reste de sa vie, pour un temps, pour la saison de célibat donnée. Tout comme ça peut être l'abstinence jusqu'au mariage ou remariage, avec la notion qu'une fois marié, le désir de servir le Seigneur demeure et la relation à Christ sera le fondement de la relation du couple. Concrètement parlant, pour ceux qui sont célibataires et désirant se marier un jour, il est important de se poser aussi cette question. Quelles sont les attentes par rapport à un futur conjoint ? Alors hier, on a longuement parlé avec les jeunes à ce sujet-là. Mais je voudrais partager avec vous l'histoire d'une femme avec qui j'avais fait à un moment donné un accompagnement pastoral, une église précédente où j'avais été pasteur. Cette femme, la soixantaine, était divorcée, elle souhaitait pouvoir rencontrer un homme de Dieu. Alors elle me dit un jour au cours d'un entretien, « Je ne comprends pas Dieu. » Ça vous arrive parfois ? « Je ne comprends pas Dieu, j'ai prié pour rencontrer un Anglais. » Grand, aux yeux bleus. Parce qu'il y en a parfois qui font ces questions-là, ces prières qu'on peut poser au Seigneur parfois. Un jour, j'ai rencontré un homme qui répondait à ces critères, alors je me suis dit que c'était un signe, une réponse à ma prière. J'ai ensuite réalisé que l'homme ne croyait pas en Dieu et qu'il avait un mode de vie que je ne pouvais pas accepter. J'ai donc dû mettre de la distance. J'ai alors prié pour rencontrer un homme qui travaillait dans l'enseignement, parce que cela était important pour moi, elle dit. J'ai rencontré un enseignant, me dit-elle. Mais là encore, j'ai bien vite réalisé que ça ne pouvait pas marcher parce qu'il était dans le New Age. C'est une de ces nouvelles sectes de nos jours. Et alors, elle me pose la question, pourquoi est-ce que Dieu m'a mis ces hommes sur mon chemin ? Je lui ai demandé, au travers de ces rencontres, qu'est-ce que tu as appris concernant tes attentes pour la relation dans laquelle tu voudrais être ? Elle m'a répondu que la personne avec qui je veux être par la suite et avec qui je veux me marier soit un homme de Dieu qui a une foi sincère. Et par ces rencontres, elle avait réalisé qu'en fait, elle avait les mauvais critères. Dans sa prière, elle avait les mauvaises demandes, les mauvais choix. Et que quand bien même le Seigneur, d'une certaine manière, avait utilisé l'humour pour aussi la guider sur le bon chemin, pour lui montrer ce qui était primordial et fondamental pour construire quelque chose, elle avait enfin compris, réalisé ce qu'elle devait demander sincèrement dans sa prière, de rencontrer une personne ancrée sincèrement en Dieu. Alors être célibataire et rester célibataire en tant que chrétien, chrétienne, c'est aussi de par sa foi en Dieu rester vrai à son identité en Christ et à la volonté de Dieu pour sa vie. C'est être amené parfois à devoir dire non à ceux qui n'ont pas leur cœur fixé sur Jésus-Christ. Et qui n'ont pas leur cœur fixé sur Christ, non seulement en parole, mais aussi en action. Et ça, on en a parlé hier soir aussi. C'est pas toujours aisé, mais c'est se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Être dans une relation qui ne fait pas honneur à Dieu, ou bien rester intègre à ma foi en Jésus-Christ en demeurant célibataire. Il peut arriver que l'on passe par des temps de désert personnel où le célibat peut sembler plus difficile à vivre, avec une attente qui se prolonge. On peut être confronté aussi à des déceptions. C'est alors bon de pouvoir prier le Seigneur, que le Seigneur enlève ou en tout cas adoucisse la souffrance que peut éventuellement causer le célibat. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours source de souffrance, mais si c'est le cas, je vous invite à prier spécifiquement en ce sens. Priez que le Seigneur donne non seulement sa consolation, mais qu'il vous permette aussi de trouver une pleine satisfaction en lui. Que ce ne soit plus une souffrance, mais qu'au final, vous arriviez à vous épanouir dans cette situation où vous êtes. Il y aura des temps difficiles avec des tentations, mais la Bible nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous pouvons remettre notre vie entre les mains de Dieu. Le Seigneur, lui, il connaît toutes choses, il sait ce qui est le meilleur pour nous. Et il faut lui faire confiance en apprenant à avoir son célibat comme une bénédiction et à encourager aussi ceux de notre entourage qui le seraient à le voir aussi comme une bénédiction et non comme une honte, un échec ou quelque chose d'anormal. Que ce soit un célibat pour la vie ou que ce soit un célibat pour une saison, c'est apprendre à être satisfait ou satisfaite en Dieu pour rendre gloire à Dieu en toutes choses. C'est chercher à tout faire pour rendre honneur et gloire au Seigneur. Il y a cette femme, Sylvie Pound, qui écrit « Nous avons cette possibilité de devenir des mères et des pères spirituels. » Pour ceux qui nous entourent et qui en ont besoin. Et se rappeler qu'en tant que célibataire, c'est ne pas hésiter à mettre nos atouts, le temps, les dons à disposition pour la gloire de Dieu. Que les célibataires sont un plus pour notre société, pour nos églises aussi, et je dirais même qu'ils sont indispensables au même titre que les familles. À encourager ceux qui sont célibataires dans votre entourage, aussi à ne pas le voir comme un échec, comme une honte, mais comme une période que Dieu peut utiliser pour les rapprocher de Dieu, pour aussi mieux se connaître, guérir et entrer pleinement dans le plan que Dieu a pour leur vie. Avant de passer à la deuxième partie de mon message, je vous invite à lire un passage bien connu des Évangiles qui se trouve, je suis allée trop vite, dans Matthieu au chapitre 7. Oui, ça va venir. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vous connaissez la suite, peut-être les plus jeunes ont appris à l'école du dimanche le chant qui va avec. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Comme je le disais tout à l'heure, cette importance de bâtir sa maison sur le roc, de bâtir sur Christ, la maison de notre vie, que nous soyons célibataires ou mariés. Tout comme le célibataire se construit et doit se construire sur le roc qu'est Jésus, de la même manière, le mariage doit se construire sur ce fondement fondamental qu'est le roc qu'est Jésus-Christ. Et construire, on le sait que ça demande de la préparation. Ça demande de la préparation, du travail de longue haleine qui se poursuit tout au long de sa vie. Parfois on se dit « Ah, ça y est, la maison elle est construite, c'est fini !» Mais une maison, ça s'entretient, les fissures, ça apparaît, il y a des choses à remodeler, auxquelles il faut s'atteler, il y a toujours des fissures à restaurer, des dégâts imprévus à réparer, des aspects de la maison à améliorer. Et il en est de même pour le mariage, c'est à construire constamment. Le problème, c'est que bien souvent, l'attention, elle est tellement focalisée sur la cérémonie de mariage, on en parlait avec les jeunes hier soir, qu'on en oublie de focaliser sur le mariage lui-même. Et de s'y préparer ce qui va s'en suivre. Et on voit souvent dans un grand nombre de films aussi l'homme qui est démontré tel un sauveur, le prince charmant qui viendrait secourir sa bien-aimée, et puis la princesse éplorée qui vient toute contente d'avoir son prince charmant, et puis ça se termine, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça se finit toujours comme ça dans les contes féeriques, alors qu'en fait l'histoire ne fait que commencer, et c'est là qu'on devrait en fait commencer l'histoire et voir ce qu'est réellement le mariage. Alors, ce n'est pas que de vouloir une belle cérémonie de mariage, c'est une mauvaise chose, hein, je ne dis pas cela. Le problème, c'est lorsqu'on focalise plus sur l'événement que sur la signification. La cérémonie, la bénédiction de mariage, ce n'est pas un show. Et malheureusement, j'ai rencontré des personnes pour qui c'était le cas. Littéralement, m'ont dit, mais oui, moi je veux un mariage en église parce que c'est romantique, on voit ça dans les films. Et ta relation à Jésus-Christ ? Il n'y avait rien. C'était juste pour les apparences. Mais ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas pour faire comme dans les films, parce que c'est beau, c'est romantique. La bénédiction de mariage en église, elle prend du sens lorsqu'on réalise qu'elle confirme l'engagement mutuel du couple qui a déjà été pris l'un envers l'autre et envers Dieu, puisqu'il y a déjà eu les fiançailles avant. Elle représente la demande du couple que l'union soit bénie de Dieu. Je lisais un livre d'un pasteur qui disait « Mais parfois, est-ce que lorsqu'il y a même la cérémonie de mariage et qu'il y a ces vœux qui sont échangés, est-ce que l'un et l'autre réalisent que c'est fait devant Dieu ?» Là encore, c'est « Oui, ça fait beau, c'est ce que le rituel, c'est ce qu'on est habitué à se dire l'un à l'autre. » Mais est-ce qu'on prend conscience de devant qui on le fait ? Ça représente tout autant l'engagement à vivre la vie de couple selon les prescriptions de Dieu, mettant Christ en pilier de la relation. Ce qui signifie que quand on entre dans un mariage chrétien, on n'y va pas à la légère. Parce qu'on sait l'engagement qui est pris. On s'y est préparé et on sait que le pilier est Christ. Ce n'est pas seulement un engagement pour la cérémonie, mais c'est un engagement sacré pour l'éternité, pris avec Dieu pour témoin. Alors pourquoi cette importance à ce que Christ soit à la base de la relation du couple ? Il y a ce passage, où on voit là c'est dans le coin plutôt, de Ecclésiaste 4, « La corde à trois fils ne seront pas facilement. » Et c'est précisément le cas quand le troisième fil, partenaire à part entière du couple, est le Christ, incarnation du Dieu vivant de la Bible. Un bon mariage part d'un bon fondement. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Pour les célibataires qui pensent se marier, c'est vraiment l'encouragement à poser de bonnes fondations en Christ, dans sa vie personnelle, afin de permettre que lorsque viendra le temps du mariage, le mariage pourra lui reposer sur la fondation de Jésus-Christ, inébranlable, et que les plus dures épreuves ne pourront détruire. Pour ceux qui sont mariés, cela peut être l'encouragement de continuer de travailler à entretenir les fondations en Christ de votre mariage. Pour d'autres, ça peut être l'encouragement à restaurer, si nécessaire, les fondations en Christ, afin de resolidifier sa vie de couple en Christ, d'y trouver une force et un amour qui avaient peut-être pu s'essouffler jusqu'ici, s'affaiblir, afin de retrouver du sens à sa vie de couple. Parce que le mariage, c'est un travail de construction qui n'est jamais terminé. C'est épuisant, hein ? Et pour lequel il faut constamment œuvrer. Mais c'est beau aussi. En laissant l'Esprit de Christ agir et parler à travers soi, en laissant Dieu prendre le contrôle de sa vie de couple. Dès la Genèse, on parle du mariage, sans pourtant que soit ce terme qui soit employé explicitement. On le trouve immédiatement après le récit de la création, juste avant la chute, en Genèse chapitre 2, où il est écrit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide ». Qui sera son vis-à-vis, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On a ici trois points indissociables. Le premier, l'homme quittera son père et sa mère. Il y a donc une rupture du lien parental. Ensuite, il s'attachera à sa femme. Il y a l'établissement d'un lien affectif nouveau. Et ensuite, ils deviendront une seule chair. Il y a l'union physique des deux conjoints. La Bible qui nous parle de l'alliance de Dieu avec l'être humain, alliance réciproque, déplace cette notion de l'alliance au niveau des relations humaines. C'est ainsi que le couple devient une alliance entre un homme et une femme, et c'est une alliance qui n'est pas que physique, c'est une alliance qui est affective, c'est une alliance qui est spirituelle également, et c'est une alliance qui fait passer l'être humain du moi au nous. Et déjà, dans l'Ancien Testament, le mariage est appelé alliance de Dieu. Peut-être certains le savaient déjà, mais c'est important de le rappeler. Alliance de Dieu. En Malachie, au chapitre 2, Malachie, chapitre 2, verset 14, il est mentionné « L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais liée par une alliance. » On a là le lien sacré de l'alliance qui lie l'homme à sa femme et qu'il ne faut pas trahir. Et dans le Nouveau Testament, on a aussi cette notion d'union, d'alliance, où règne la fidélité, où il y a aussi cette recherche de la pureté qui est mentionnée dans la relation, dans le sens où l'homme et la femme s'honorent mutuellement, ils sont réciproquement fidèles l'un à l'autre. On l'avait lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 7, là c'était plus spécifiquement les versets 4 et 5, où le mariage est une alliance dans laquelle le corps du mari appartient à la femme et celui de la femme à son mari. L'homme et la femme s'appartiennent l'un à l'autre. On réalise aussi que le mariage, c'est une alliance de foi. Alors, lorsque mon père a décidé de se marier avec ma mère, il lui a dit « Je viens de prendre la deuxième décision la plus importante de ma vie. » La première, c'était de donner ma vie à Jésus-Christ. Il dit « La deuxième, c'est de te choisir la personne de foi avec qui je veux vivre jusqu'à la fin de ma vie. » Alors, ils avaient des cultures différentes. Ils étaient nés et avaient été élevés dans deux pays totalement différents. Mon père est né au Brésil, ma mère est née en France. Mais ils avaient une culture commune qui était la culture de foi. Et parfois, on peut être à des années-lumière d'une personne qui a été élevée dans le même pays que nous, a eu peut-être la même culture, le même cursus scolaire, mais qui n'est pas une personne qui a la même foi que nous en Jésus-Christ. Et alors, on a l'impression en fait, d'être sur une autre planète l'un de l'autre. Mais sans minimiser les différences de culture, les questions pratiques que ces différences peuvent entraîner, un mariage interculturel centré sur Christ peut être plus harmonieux qu'un mariage entre deux personnes qui sont de la même culture mais qui n'ont pas la même foi. L'important, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ, d'avoir fondé sa vie sur Christ individuellement d'abord et ensuite de vouloir le faire en couple. Parce que le mariage, c'est basé sur un amour sacrificiel, un amour tendresse, miséricordieux, qui est réciproque. C'est pas juste dans un sens, mais dans les deux. Alors je sais pas si vous connaissez, je sais pas si on voit très bien l'histoire de Johnny Erickson Tada. Ils viennent tout juste l'un et l'autre, elle et son époux, de sortir un livre. Et son mari Ken savait que sa vie de couple demanderait de lui un amour sacrificiel. Parce que Johnny était paraplégique, dû à un accident de natation lorsqu'elle avait 17 ans. Et cet engagement qu'il a pris vis-à-vis d'elle, il a dû le renouveler en fait à plusieurs reprises. Pour lui-même, notamment à des moments de crise personnel, où il se demandait s'il allait pouvoir tenir bon physiquement, s'il allait pouvoir tenir bon aussi psychologiquement. Bien sûr, c'est une situation extrême, mais dans tout couple, il y a aussi l'engagement du mariage qui exige en fait un certain renoncement à soi pour l'épanouissement de l'autre. Et par l'exemple de ce couple, par l'exemple aussi de Ken Tada, il y a le modèle de cet amour sacrificiel que tout mari a appelé à avoir pour sa femme et que l'on retrouve exprimé par l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 5 où il nous dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. » Cet amour que l'apôtre Paul appelle les maris à avoir pour leur femme, comme on le voit dans ces versets qui suivent, c'est un amour tendresse. Un amour qui chérit, un amour qui prend soin, un amour qui entoure d'attention, qui veille au bonheur de son épouse. Le mari est appelé à se donner tout entier pour son épouse, à mourir lui-même pour elle. Généralement, on parlait de tous ces versets qu'on ne lit plus, qu'on ne lit pas, c'est l'un d'entre eux. Et un tel amour est puissant. Parce que sa source, elle est puisée en Jésus-Christ et elle émane de l'exemple de Christ lui-même. Alors l'auteur Gary Chapman, je ne sais pas si vous connaissez, qui est marié depuis plus de 50 ans, a écrit dans un de ses derniers livres « Toujours marié, toujours amoureux » que ça n'a pas toujours été rose au début de leur mariage. Il écrit, et là je voudrais partager son témoignage, parce que j'ai senti, je n'allais pas l'inclure dans mon message, et j'ai senti que c'était à partager. Alors peut-être que pour quelqu'un c'est important. Début de citation. « C'est dans ces périodes sombres que je me suis souvent dit, je n'ai pas épousé la personne qu'il fallait, ça ne marchera jamais, nous sommes trop différents. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai finalement dit à Dieu, je ne sais plus que faire, j'ai tout essayé et la situation ne s'améliore pas. À peine avais-je formulé cette prière que l'image de Jésus, à genoux, en train de laver les pieds de ses disciples, s'est imposée à mon esprit. Et j'ai entendu Dieu me dire, voilà où est le problème dans votre mariage. À l'égard de ton épouse, tu n'as pas adopté l'attitude du Christ. » Cette parole me frappa cruellement car je me suis souvenue de ce que Jésus avait dit après s'être relevé, « Je suis le chef et dans mon royaume, c'est ainsi qu'on dirige. » Je savais que je n'avais pas cette attitude. Dans les premières années, j'avais adopté le comportement suivant. « Je sais comment avoir un bon mariage. Si tu fais ce que je dis, nous serons heureux en ménage. » Mais comme elle ne m'écoutait pas, je faisais retomber sur elle la médiocrité de notre vie conjugale. Ce jour-là, j'ai reçu un autre message. Le problème était que mon attitude ne reflétait pas celle de Christ, l'attitude d'un serviteur. J'ai alors répondu à Dieu, « Pardonne-moi. Oui, j'ai négligé l'essentiel. » Et j'ai ajouté, « Donne-moi, s'il te plaît, l'attitude de Christ envers ma femme. » Avec le recul, je pense que c'était la prière la plus ardente que j'ai adressée au Seigneur concernant mon mariage et Dieu a changé mon attitude. Trois questions m'ont amené à des changements pratiques. À partir du moment où j'ai accepté de me poser ces questions, notre vie conjugale a radicalement changé. Ce sont des questions simples. Que puis-je faire pour t'aider ? Que puis-je faire pour t'aider ? Comment puis-je te faciliter la vie ? Comment puis-je te faciliter la vie ? Comment être un meilleur mari pour toi? Comment être un meilleur mari pour toi? Et Gary Chapman partage que pas même 3 mois plus tard, son épouse lui a posé ces mêmes questions. Et il écrit « Dieu n'a jamais voulu que le mariage rende les gens malheureux. Il nous a fait l'un pour l'autre, le plan de Dieu est que nous nous aimions l'un l'autre, que nous soyons aux petits soins l'un pour l'autre, pour qu'ensuite, individuellement et en couple, nous puissions mettre au service du monde les capacités que Dieu nous a données. » Fin de citation. Dans cet amour mutuel du couple, on voit aussi que la soumission de la femme dont parle l'apôtre Paul n'est pas un signe d'infériorité, mais un signe de respect, d'admiration, de valoriser son mari. C'est le sous-entendu que vous êtes appelé à participer à la sanctification de votre conjoint par la prière. Il est l'être que Dieu a intégré dans votre vie avec mission pour vous de prier pour lui, de l'encourager, de le défendre, de le stimuler, de le valoriser. L'aimer ainsi ne peut faire que le plus grand bien à votre propre âme. Et c'est dans cette soumission mutuelle, dans cet amour réciproque, qu'en même temps, comme le Cantique des Cantiques en parle, il y a pour le couple un amour tendresse et un épanouissement qui est divin. Don de soi signifie aussi acte de confiance. Et je terminerai avec cet acte de confiance qui émane ensuite sur la fidélité. La confiance que l'homme et la femme ont mise en Dieu les invite à se faire confiance mutuellement. Sans cette confiance, il n'y a pas cette possibilité de construire solidement quelque relation que ce soit, et plus encore un mariage. Excusez-moi. La confiance est tellement précieuse, c'est un lien tellement fort qu'on ne voudrait jamais le rompre, jamais le briser et plutôt le chérir. Mais c'est aussi savoir qu'il pourrait y avoir des gens qui voudront chercher à briser cette confiance et à semer le doute. Il est donc important de garder les canaux de communication ouverts et de ne pas laisser les semences de méfiance s'immiscer dans le couple. C'est aussi prier que Dieu vous protège, qu'il préserve la confiance que vous avez l'un pour l'autre. Et c'est important que vous priez ensemble à ce sujet. Cette notion de confiance mène à la fidélité qui est aussi à entretenir et à préserver. Et là encore, il peut y avoir des tentations. Et le monde dans lequel on vit peut chercher à présenter la fidélité comme quelque chose de démodé. Les gens du monde peuvent chercher à briser ce que Dieu a construit. C'est donc important, et je pense que vous le savez déjà, mais je pense que c'est important de le rappeler, de vous revêtir jour après jour du Saint-Esprit, de demeurer ancré en Christ. Comme le Seigneur est fidèle, l'homme et la femme sont appelés à être fidèles l'un à l'autre. Et alors Dieu les comblera de ses bénédictions. Alors je terminerai avec cet encouragement. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. C'est l'Éternel qui rend le mariage solide. C'est aussi l'Éternel qui rend une vie de célibataire harmonieuse. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Construis ta vie de célibataire ou ton mariage sur le roc qu'est Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, tu connais la situation de tout un chacun ce matin. Tu connais leur situation, soit de célibat ou leur situation de mariage. Et Seigneur, je te prie que tu puisses vraiment déverser ton onction divine sur chacun, sur chacune. Seigneur, que tu puisses permettre aussi de renouer tout particulièrement sa relation avec toi. Seigneur, dans cette question du où j'en suis dans ma relation à toi, de pouvoir te rechercher, toi, notre Seigneur et Sauveur avant tout, de rechercher ta face, de s'humilier devant toi, de rechercher ton pardon si nécessaire, pour entrer pleinement dans le plan que tu as que la personne soit célibataire ou qu'elle soit mariée, tu as un plan spécifique, tu as une mission particulière. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses permettre que chacun entre pleinement dans cette mission, de pouvoir être ton témoin plein et entier, pour être cette bénédiction, non seulement aujourd'hui, mais pour les générations à venir. Je te prie, Seigneur, que tu enlèves tout obstacle, tout ce que Satan cherche à détruire, tout ce qu'il cherche à freiner, à empêcher, afin que chacun, chacune puisse dire, Seigneur, aujourd'hui je prends cet engagement de construire sur toi, d'avoir un nouveau regard, une nouvelle perspective, de construire pour l'éternité, avec toi pour berger, en me laissant guider par toi. Et je sais, Seigneur, que beaucoup vont vivre tes miracles s'ils te laissent prendre cette première place dans leur vie. Et Seigneur, je te bénis déjà pour ce que tu fais, ce que tu vas faire. Et je te rends gloire, Seigneur, parce que tu es tout puissant. Et merci parce que ta main est toujours tendue vers nous. Et ta grâce est là. Et que de ce qui a été un mal, de ce qui a été une souffrance, tu permets aussi de pouvoir en faire émerger une beauté et nous présenter un avenir plein d'espérance. Alors Seigneur, merci. Merci pour ce salut que tu nous offres et que toute la gloire te revienne. En ton nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.